Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des podcasts de récréation. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, vous allez découvrir des adultes qui vivent des situations professionnelles un peu originales, un peu décalées, souvent courageux, avec des leçons, des éléments qui vont être utiles pour tout un chacun. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va découvrir le parcours de Théodora, qui a créé il y a quelques années Customify. Au départ, Théodora cochait toutes les cases de l'employé modèle, et puis la maternité lui a donné envie de changement pour plus de sens, pour être alignée avec ses valeurs. Petite fille, elle aimait déjà créer, et puis il a fallu beaucoup de temps, de chemin, et sa curiosité et son plaisir dans les activités créatrices l'ont amenée à lancer sa petite entreprise. Petit à petit, elle a défini son activité. C'est notamment en écoutant le retour de ses clients, de ce qui plaisait, qu'elle a réussi à trouver sa voix unique, sa particularité et ce qui fait toujours aujourd'hui son succès. Voici donc l'aventure Customify. Bonjour Théodora.
Salut Jessica.
Je suis contente et je disais juste avant qu'on enregistre que j'aurais pu penser il y a déjà longtemps en fait te proposer de venir faire un tour devant mon joli micro. Et puis parfois c'est ce qu'on a sous le nez qu'on pense pas forcément à utiliser. Mais bienvenue du coup dans les podcasts de récréation.
Ah bah écoute, avec plaisir, hein.
On reprend une troisième saison avec toi et bah, pour démarrer, je vais te demander de me dire globalement qu'est-ce que tu fais, c'est quoi Customify, c'est quoi ton activité?
Alors, mon activité, donc moi je gère un site de e-commerce, on vend des sacs de voyage personnalisés sur le site internet. Qui sont essentiellement destinés à être offerts lors de fêtes de famille, fêtes d'anniversaire, communion, fêtes de fin d'année, des choses comme ça. Donc c'est vraiment orienté cadeau, très fort famille, enfants, parrain, marraine, grands-parents, école, donc vraiment autour de la famille. La famille qui part en vadrouille, la famille qui se crée des souvenirs, vraiment dans cet univers-là. Donc on a un atelier de toutes les personnalisations sont faites en Belgique. On a un atelier qui est basé à Tervuren où travaille l'équipe. Donc vos commandes sont traitées à l'atelier, elles sont préparées à l'atelier, envoyées du coup depuis l'atelier aussi. Et à côté de ça, du coup, autour de l'e-shop en tant que tel, on gère évidemment tout ce qui est la communication, le site internet, les relations avec le fournisseur, bien sûr le service client, qui est notre priorité numéro un, les clients contents, heureux, qui reviennent, qui en parlent. Et donc, voilà, ça grandit chaque année, et chaque année, on a de plus en plus de clients qui reviennent.
Super, bravo déjà.
Merci.
On s'est rencontrés toutes les deux au début, en fait, de nos activités, c'était 2016, c'est ça?
Tout à fait, oui. 2016, de part dans l'entrepreneuriat.
Ouais, et tu faisais quoi avant ça?
Alors, moi à la base, donc je suis ingénieure civile de formation.
Ok.
J'ai travaillé pendant 7 ans dans le domaine de sur chantier, dans une grande entreprise multinationale dans le dragage. J'ai beaucoup voyagé, donc en sortant de mes études, j'avais qu'une envie, c'était de voyager. Donc j'ai eu la chance d'avoir des très beaux chantiers en Afrique du Sud, au Brésil, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et donc c'est vraiment une super expérience. Et puis voilà, il y a toujours un moment donné où on veut rentrer, on veut un peu plus se poser, penser un peu à la suite, à la vie de famille éventuelle. Et donc là, je suis rentrée en Belgique et c'est là que je me suis retrouvée dans une routine plutôt. Un boulot, un confort, une prison dorée, on va dire. On ne peut pas appeler ça comme ça. C'est confortable, c'est facile. Voilà, tout est à ma disposition pour être un employé modèle.
Et ce n'était pas toi l'employé modèle.
Pourtant, je pense que oui, je correspondais à la case, mais intérieurement, je me rendais compte qu'il fallait plus, qu'il fallait un peu plus de challenge et surtout qu'il fallait trouver un peu plus de sens quand même. Autant qu'on n'est pas encore parent ou mère de famille, le sens est très fort auto-centré. On fait ce qu'on aime, voyager, sortir, voir des amis, etc. Et donc, ça correspondait bien. Et puis, quand on commence à avoir des enfants, on se rend compte que le sens de ce qu'on fait en journée change. Pas qu'on veut être plus avec les enfants, parce que je pense qu'on doit avoir une activité professionnelle à l'extérieur, vraiment. Mais il faut qu'elle ait beaucoup plus de sens, qu'elle soit alignée avec nos valeurs, avec la manière dont on perçoit le monde, l'avenir, le système actuel, qu'il soit économique, financier, écologique, etc. Et donc vraiment remettre du sens là-dedans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne trouvais plus le sens de faire des contrats pour des cheikhs arabes qui voulaient approfondir leur port de plaisance dans lequel ils ne venaient jamais.
D'accord.
Donc voilà, à un moment donné, j'ai voulu être plus indépendante, avoir plus de flexibilité, et donc j'ai sauté le pas vers l'entrepreneuriat.
Ok. Si on remonte encore un peu dans le temps, j'imagine que ingénieur civil, ça déborde pas de filles. Qu'est-ce qui fait que la petite Théodora se lance dans ces études-là?
Si on me connaît, on verra que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Voilà, c'est pas très original. J'ai deux parents, ingénieur civil, pas mal de cousins, ingénieur civil. Et donc, à un moment donné, on se dit, ben voilà, en fait, why not finalement? Et donc, j'ai commencé ça effectivement plus pour aussi pour la particularité, l'ouverture de la formation. J'étais quand même pas mal en contact avec des adultes, du coup, d'amis de parents qui étaient ingénieurs civils, mais qui avaient des éventails hyper larges de métiers, d'occupations et de boulot, de projets. Et donc, ça m'a montré qu'en fait, c'est une formation qui est très polyvalente. Et donc, contrairement par exemple à un dentiste qui pourrait être assez, assez restreint, finalement, c'est une formation qui ouvre pas mal de portes. Donc, c'était peut-être une manière aussi de reculer encore le fait de devoir prendre une décision et de faire un choix. Et donc, voilà, je changerais pas. Enfin, pour rien au monde, je changerais ça. C'était vraiment des 5 années magnifiques. Pré-Covid évidemment, donc on a eu la chance, les groupes d'amis, étudier ensemble, l'école, les activités. Voilà, je pense que tous ceux qui ont vécu l'université avant le Covid savent. Donc effectivement, voilà, ravie de la formation que ça m'a donnée et de l'ouverture que ça m'a donnée aussi après. Et donc voilà, je me mobilise pour effectivement motiver de plus en plus de filles quand même à prendre cette voie-là aussi. Je trouve ça très important. Même si on ne fait pas encore assez de ce point de vue-là dans les écoles, mais c'est essentiel effectivement parce qu'il y a une place à prendre.
Ok. Et petite fille, toi, tu étais quel genre de petite fille? Est-ce que tu répondais à cette question des adultes? Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande? Est-ce que tu avais une réponse? Tu avais des rêves de métier déjà?
Pas du tout. Pas du tout. Je pense que si on prend les carnets d'amitié qu'on remplissait à l'époque,
Ouais.
hein, 8-10 ans, je pense pas qu'il y avait quelque chose de très, très figé. Sans doute, comme beaucoup de petites filles, j'ai dû écrire de temps en temps que je voulais être prof, que je voulais être chanteuse. De nouveau, ceux qui me connaissent sont très contents, ça va, que je n'ai pas été jusqu'au bout de ce rêve-là. Donc non, vraiment aucune idée fixe. Aucune idée fixe, donc aucune idée fixe. Moi, au contraire, vous êtes une bonne question, je vous disais un peu, ben, on verra, laissez-moi vivre mon enfance, laissez-moi
Ouais.
jouer, et surtout, ne m'embêtez pas avec vos questions,
Et qu'est-ce qui
voilà.
te passionnait? Est-ce que tu étais le genre d'enfant dehors à grimper dans les arbres ou du sport ou des activités artistiques?
Alors, j'ai toujours été très créative et manuelle, donc ça effectivement, je peux pas le nier. Je pouvais passer des heures à trier, ranger, découper, classer, coller, colorier, dessiner, tamponner. Enfin, oui, vraiment, ça c'était voilà. Même si parfois on doit juste suivre ce qui nous démange finalement. Ça c'était vraiment comme ça que je pourrais dire que ce que je m'en avais, enfin oui, c'est ce qui me caractérisait très fort à une époque. Après, effectivement, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche. Oui, j'ai besoin d'être dehors, à l'extérieur, de sortir, de bouger. Voilà, je pense avec le temps, c'est quelque chose qui s'est de plus en plus défini. Le fait de suivre un peu son instinct, quoi.
Ok. Et comment en fait arrive l'idée de Customify? C'est ça quel est le déclencheur de cette histoire?
Alors, donc, au commencement, alors, bon, il faut savoir que quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, je n'avais certainement aucune idée aucun objectif, aucune idée. Donc, c'est pas du tout comme ceux qui ont déjà trois plans financiers, qui se lancent, enfin, qui ont déjà, du coup, profité de la fin de leurs études ou de leur travail d'employé pour définir en long et en large leur business plan. Je me rendais compte que j'avais besoin de sortir, d'avoir plus de flexibilité, etc. Et donc, j'ai plus été à tâtons, essayé. Je dis pas que c'était la meilleure manière, mais en tout cas, c'était celle qui me convenait à ce moment-là. Je ne voulais même pas aller dans un système d'accompagnement parce que je voulais pas devoir rendre des comptes alors que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, je veux pas qu'on me dise, mais tiens, tous les mois, tu dois me dire où tu en es parce qu'en fait, nulle part. Donc au début c'était une activité beaucoup plus centrée autour de la carterie et du papier, etc. Je me suis très rapidement j'ai dû très rapidement me rendre à l'évidence qu'en fait Internet proposait déjà énormément de demandes, il y avait une offre déjà très 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 large et qui ne faisait que grandir et que se spécialiser. Et donc il y avait quand même on dit toujours qu'il y a une part de marché à prendre quand on veut, mais là, effectivement, je sentais que c'était moins ce que je recherchais. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que tout c'était personnalisé, c'est quelque chose qui allait très fort, qui était en vogue aux États-Unis et qui arrivait tout doucement chez nous, et que ça allait prendre de l'ampleur. Et donc, j'ai testé sur plusieurs supports, plusieurs choses, etc. Donc, très rapidement, je me suis inscrite à des ventes physiques, des marchés, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment à l'écoute, c'est en allant vers le client qu'on peut vraiment définir son besoin et qu'on peut y répondre finalement. Se proposer un super produit qui, en fait, ne répond à aucun besoin, mais finalement, voilà, quand on creuse un peu tout ce qui est entrepreneurial etc., on se rend compte que oui, donc, il faut répondre à une demande. Et donc, c'est marrant, je me souviens encore très bien, j'avais dans la période plus d'articles que je proposais à cette vente, j'avais aussi un site de voyage. Je l'avais mis un petit peu en retrait en me disant, bon, on verra bien, voilà, si, on verra bien. Et en fait, c'est cet article-là qui était le plus demandé, sur lequel on posait plus de questions, on me demandait les coloris qu'il y avait, les tailles, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce qui attirait l'œil. Et c'est là effectivement qu'il y a vraiment un gros changement et que je me suis dit, mais en fait, c'est vers ça que je veux aller, effectivement. Surtout que le de voyage, finalement, ça regroupait d'un côté le côté vadrouille, famille, vadrouille, expérience, voyage, vacances, congés, sortir de son quotidien, partir à l'aventure, à la rencontre de l'autre, etc. Donc, il y a vraiment ce côté voyage, le côté personnalisation, du coup, qu'on gardait, donc plus créatif, je dirais. Et donc c'était vraiment allez, sans le vouloir, finalement, c'est quelque chose qui arrivait un peu à la croisée des différents chemins. Et c'est de là, du coup, qu'on a concentré le site sur les sacs de voyage
Ok,
personnalisés.
il s'est imposé à toi ce sac.
Oui, c'est comique, oui, c'est ça, via des retours des premiers clients qui sont venus vers moi. Donc oui, c'est chouette.
Chouette. Et la réaction de ton entourage par rapport à ce projet entrepreneurial, j'entends que c'était pas au départ un monde d'entrepreneurs.
Oui, non, c'est un monde ou un milieu que j'avais déjà, enfin, que j'avais déjà approché de manière plus ou moins approfondie, donc c'était pas non plus tout à fait inconnu, mais en même temps, comme je partais de zéro, rien, sans projet, effectivement, je sentais un peu les remises en question, bon, et qui on va laisser faire, on verra bien finalement, etc. Et c'est pas plus mal. Je pense que finalement, j'ai un peu pris ça comme un début, une année sabbatique ou quelque chose où on peut un peu se redéfinir. Il y en a qui font une année sabbatique après la réto, il y en a qui partent après un an après l'UNIF pour voyager, il y en a qui font le tour du monde. Enfin voilà, je pense que dans son parcours professionnel, il faut pouvoir faire des pauses et prendre du recul. Et donc moi j'ai considéré ça un peu comme ça, en me disant ben voilà, c'est effectivement ma pause, mon recul pour redéfinir la suite. Donc c'était effectivement très flou. Mais je me suis rendu compte qu'il a fallu très rapidement quand même définir tout ça, mes objectifs, se faire accompagner. Et donc au fur et à mesure des années, le projet a évolué. Le chiffre d'affaires a évolué aussi, l'accompagnement aussi a évolué. On travaille beaucoup plus maintenant avec des prestataires, des sous-traitants, un coach, voilà, quelque chose vraiment pour professionnaliser tout ça et pour que ça tienne la route et pour effectivement garder une entreprise qui se développe, quoi.
Ok. Alors, question compliquée peut-être pour une entrepreneur, à quoi ressemble une journée, une semaine dans ta vie? J'imagine qu'elles sont pas toutes pareilles, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps?
Là, il y a sans doute une différence entre ce que je fais de mon temps et ce que je devrais faire de mon temps. Donc ça, c'est une première chose. Après, en termes d'horaire, je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à d'autres. Hein. On a tous... oui, moi, je travaille la journée comme beaucoup. C'est parce que je suis indépendante ou quoi que je travaille la nuit ou que je fais des shifts insensés. Je pense que comme beaucoup, je pose mes enfants à l'école, je viens travailler au bureau. En fin de journée, je quitte mon bureau, je vais les chercher, j'attaque la vie de famille. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de différence. La grosse différence, c'est qu'effectivement, je suis la seule à décider de ce que je vais faire. Donc, lundi matin, typiquement, on planifie la semaine, je planifie les rendez-vous. Les choses importantes à prendre en compte en termes de beaucoup de communication. Ok, cette semaine, on parle de quoi? Quelles sont les nouveautés qu'on va mettre en avant? Les articles de blog, les shootings photos. Donc, on planifie toute cette communication. Bon, évidemment, on part d'un plan sur l'année. Hein, donc, chaque semaine, on va chercher la semaine en question sur l'année et avancer. Donc, on planifie aussi tout ce qui est les commandes qui rentrent sur le site, qu'il faut préparer, qu'il faut... c'est des commandes spécifiques, des commandes auprès des fournisseurs aussi à faire, de toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup de planification, beaucoup de gestion et puis beaucoup de suivi aussi. On prend très à cœur les retours de nos clients en termes de conseils, de remarques. Tiens, si vous proposez ceci, tiens, je ne vois pas cela, tiens, c'est mal exprimé sur le site, etc. Donc, on fait quand même beaucoup, c'est aussi une part importante du boulot, effectivement, d'adapter le produit et le site pour qu'il corresponde au mieux à ce que le client souhaite voir sur le site. Donc ça, c'est aussi des choses importantes, suivre aussi les saisonnalités, les tendances, les mises à jour, etc. Donc c'est vrai que parfois on pense, oh, e-commerce, comme c'est pas une boutique physique, il y a beaucoup moins à faire. Mais en fait, la boutique en ligne a aussi une vitrine, a aussi des saisons, a aussi vraiment de travail à faire dans le digital pour faire venir justement les clients sur le site. Donc, effectivement, les semaines ne se ressemblent pas. Ça cachote aussi. Mais je pense que dans un boulot d'employé, finalement, on peut aussi varier très fort le contenu de sa semaine, donc c'est pas très différent. C'est vrai que la grosse différence, c'est de pouvoir soi-même mettre des limites et dire, voilà, j'ai un rendez-vous extérieur parce que j'ai un rendez-vous avec un enfant, j'ai un rendez-vous pour moi, je dois aller faire une course, il fait beau, je vais faire une promenade. Mais effectivement, ça, c'est la liberté qu'on a. Maintenant, je suis plus relaxe quand j'en parle, mais tu m'aurais posé la même question il y a un an. Je t'aurais dit, je retravaille le soir, je travaille tout le temps, le week-end. Et là, maintenant, effectivement, on a réussi à mettre plus de structure, plus d'équilibre, et donc j'arrive à déléguer beaucoup plus. Et donc, ça permet effectivement de rétablir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée, finalement.
Oui, tu as été chercher de l'aide en fait.
Mais je me suis surtout rendu compte, en fait, non, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, pour une fois, comme dirait mon mari. Et de dire effectivement qu'à un moment donné, il faut déléguer, on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut déléguer et il faut ne garder que ce pour quoi on est vraiment bon, ou en tout cas ce qu'on aime faire. Bon, idéalement, ce soit que ça soit la même chose. Parfois, on est bon dans certaines choses, on aime moins les faire. Parfois, on aime bien faire des choses, on n'est pas parfait là-dedans. Donc, effectivement, maintenant, je délègue énormément tout ce qui est la production et le suivi sur le site. Donc j'ai toujours un œil là-dessus. Bon, après, c'est aussi suite à l'accident que j'ai eu. Donc, la production, etc., c'est très fort délégué. Donc, maintenant, j'ai une équipe. Je délègue aussi la communication. Donc, c'est vraiment avoir un fil rouge. Mais moi, alors, je crée tout le contenu qu'il y a autour. Les nouveautés, ça, évidemment, j'ai toujours ça entre les mains aussi. Donc, je délègue beaucoup plus de choses, mais je chapeaute quand même toujours. Donc, je sais exactement quand on me demande quelque chose, etc. Je sais quand même toujours exactement où on en est, ce qu'il en est. Donc, Donc voilà.
Alors, tu le mentionnes et tu l'avais mentionné dans ta communication. En novembre de l'année passée, je crois, il s'est passé un truc.
Deux trucs.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Oui, le 16 novembre, donc à la veille de notre plus grosse période, puisque novembre et décembre, c'est vraiment le pic de l'année sur notre site avec le Black Friday et les périodes de Noël. Le 16 novembre, à 21h30, je suis victime d'un accident de la route. Une personne qui n'a pas respecté sa priorité et donc qui a provoqué un accident entre deux voitures. Et donc là, effectivement, je me retrouve avec les deux poignets cassés. Alors, je suis très, très psychologue de fin de village, mais je dis toujours, ce ne sont que les deux poignets cassés. J'aurais pu avoir bien pire. Donc, je me retrouve effectivement avec deux poignets complètement bousillés, donc dans le plâtre. Avec deux poignets cassés, on ne sait plus rien faire. Plus rien faire. Et même ceux qui se posent la question, non, on ne sait plus rien faire. Donc, ça, c'est vraiment effectivement, c'était vraiment très, très, très handicapant. De nouveau, comme l'équipe était déjà partiellement mise en place, ça m'a beaucoup aidée. Alors, parfois, genre, c'est un peu comme un signe. Même si je suis très rationnelle et que je ne suis pas du tout dans tout ce qui est alternatif, je me dis que là, je vais me prendre à l'évidence que c'est quelque part un signe. J'aurais essayé d'aller passer, ça aurait été impossible parce que j'étais encore seule. Là, cette année, effectivement, j'ai une employée, j'ai une stagiaire du coup qui s'est manifestée, qui nous a aussi aidés. Et donc voilà, tout ça s'est mis en place et finalement, tout a pu continuer malgré que je sois complètement indisponible. Et donc c'est là aussi je me suis vraiment quelque part rendu compte de la force qui avait été mise en place, que finalement je n'étais plus indispensable pour tout. Donc ça c'était aussi une belle leçon finalement, et d'accepter que les choses soient faites par d'autres personnes, qu'elles sont aussi bien faites si pas mieux, que les autres personnes ont des visions différentes, donc elles apportent aussi des nouvelles approches, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives. Et donc vraiment ça enrichit finalement l'entreprise. Donc au final je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses suite à cet accident. Bon après évidemment oui effectivement il y a eu la com autour qui a fait que ça a été pas mal relayé et donc voilà, j'ai beaucoup de soutien, beaucoup de messages encourageants et ça permet aussi de passer au-dessus finalement, de passer le cap. Là on est 3 mois plus tard et je suis toujours en incapacité parce qu'effectivement j'ai pas encore récupéré l'utilisation optimale de mes poignets, mais donc voilà, comme on dit, step by step, et puis il aura fallu ça pour que d'autres choses se mettent en place, donc voilà.
C'est une sérieuse remise en question finalement du fonctionnement. T'as 3 enfants aussi, donc quand même ça, j'imagine que ça t'a compliqué la vie.
Oui, mais en fait, de manière remarquable, ils sont adaptés.
Génial.
Je fais partie de ces parents qui prennent les choses du bon côté et qui croient au fait que les enfants s'adaptent à tout, à toutes les situations et à tous les messages. Tant qu'on leur explique et qu'on est positif, dans le sens où les enfants, donc, à l'époque, donc, au moment de l'accident, ils avaient 8, 6 et 5. Et très rapidement, je pense que voilà, ils ont pris leur indépendance, ils n'avaient pas d'autre choix que de se lever seuls, s'habiller seuls et de faire leur collation seuls, leur cartable, et de partir à l'école. Alors là, pas seul parce que je les accompagne, j'ai toujours marché, hein, parce qu'on n'a pas sur les poignets, mais pour le reste, ils se rendaient bien compte que là, il fallait tout faire seul, donc je ne pouvais que parler et dire ce qu'il fallait faire, mais donc en pratique, c'était eux qui devaient faire seuls, et ça leur a vraiment donné un boost d'indépendance et après ils ont vu effectivement que je restais positive, que je restais attentive, que je restais à l'écoute, que j'étais là, donc effectivement ils se sentaient accompagnés, mais en pratique effectivement ils devaient quand même faire beaucoup plus seuls, et donc de nouveau ça a été, je pense que comme chaque chose qui se passe au sein d'une famille, que ce soit une expérience de santé, de boulot professionnel, financière, etc., je pense que chaque expérience finalement doit être vécue, et oui ça chamboule la famille, mais c'est une expérience à vivre en famille, et donc finalement je crois vraiment que la famille sort soudée et forte de chaque quelle que soit l'expérience qu'elle doit traverser, de la manière tout finalement réside dans la manière avec laquelle on l'approche finalement.
Chouette, chouette. Est-ce que justement ils sont conscients que tu as une activité entrepreneuriale, que tu n'es pas salarié? Est-ce qu'ils en, vous en parlent? Ils réalisent? Est-ce qu'ils ils voient? Au début, tu travaillais de chez toi?
Oui, tout à fait.
Donc, ils voyaient peut-être plus passer ton activité à la maison?
Oui, ils sont, ben les grands sont conscients, la dernière un peu moins, je crois. Alors, ils sont conscients en partie. La différence entre salarié et entrepreneur, ça, je pense qu'ils ne s'en rendent pas encore compte. Je pense aussi qu'ils ne s'en rendent parfois pas compte de la flexibilité qu'on a par rapport à ça. Et ça, on ne le rend pas, évidemment. Ils se rendent compte, oui, effectivement, que voilà, maman a un atelier, maman est au travail, ils connaissent, oui, ils connaissent finalement le travail. Je pense parfois c'est pas mal, c'est plus concret que être derrière un ordinateur et toute la journée. Donc là, effectivement, concrètement, ils voient, ils conçoivent. Et parfois ils viennent à l'atelier, oui, quand ils sont malades, donc il faut les garder, mais parfois ils viennent à l'atelier parce que ça se met. Ils s'en rendent compte, et le fait d'avoir séparé, d'avoir bougé de la maison, ça c'est aussi essentiel, parce que de plus en plus ils venaient dans l'atelier, ils venaient chipoter, et maman je peux, mais en fait oui et non, parce que pourquoi pas, mais en fait non, parce que voilà, c'est... Ce sont des commandes, parce que c'est du boulot, parce qu'il n'est pas tout bazardé, etc. Et pour moi aussi, finalement, d'avoir maintenant, quand je quitte à 16h30, 17h, je ferme et je ne m'occupe plus jusqu'au lendemain matin.
Oui.
J'arrive même à laisser mon ordinateur dans mon bureau, le week-end aussi, je me retrouve sans ordinateur le week-end. Alors ça, c'est un grand pas pour moi. Le fait de séparer l'un et l'autre, ça reste parfois difficile quand on lance son projet, mais effectivement, je pense que ça reflète aussi le fait que je délègue de plus en plus et que donc je me détache de au quotidien d'être tout le temps accroché.
Super. C'est quoi ton matériel de travail? Donc j'entends un site de e-commerce, la production. De quoi tu as besoin en fait pour faire ton boulot?
Si on commence par le début, évidemment, comme tout le monde, on a un ordinateur. Pour ça, il n'y a pas de secret actuellement. Gérer le site, gérer les commandes, les fichiers, etc. C'était quand même tous les logiciels de design pour faire les maquettes de personnalisation, les mails, etc. Donc ça, il n'y a pas de secret. Nous, en termes de production, on a les machines de découpe, on a les presses pour faire les commandes. Et après, en termes d'outils, comme tout le monde, on a un GSM avec les applications qu'on utilise. Donc, c'est très fort, effectivement, les réseaux sociaux, ça n'y a pas de secret. Canva pour la com, Mailchimp pour les newsletters, Google Analytics pour voir un peu le suivi en ligne. Voilà, différentes applications de com. Donc ça c'est vraiment les choses, je dirais il y a rien d'extravagant ou d'exceptionnel, c'est vraiment les machines à l'atelier et puis tout ce qui est indispensable pour la com à côté.
Ok, est-ce que tu te rappelles de ce qui te faisait le plus peur au début quand tu t'es lancée?
C'est marrant parce que parfois je regrette de ne pas avoir écrit au jour le jour les questions, les to-do, etc. Bon, après, j'ai toujours mes carnets de notes. Hein. Moi, je note, en fait, je suis très note encore manuelle et donc, quand ça se met, on s'entend. Je garde mes carnets ici, c'est mon 8e carnet, je pense, depuis. Donc, c'est vrai que c'est parfois comique de retourner en arrière et de voir un peu les notes précédentes. Ce qui me faisait peur, en fait, j'ai pas eu très peur, et je pense que ça c'est parfois un problème, parce que je suis convaincue que quand on a plus peur et qu'on est plus pris par les tripes, parfois on peut aller plus loin et plus vite.
Ok.
Donc
t'es relax.
Je dirais pas jusque là, mais c'est pas que j'ai eu peur de pas faire comment dire ça. J'ai pas eu peur de ce qu'on pensait de moi, ou j'ai pas eu peur de ne pas, enfin, de pas plaire, c'est pas vraiment correct, parce qu'effectivement on doit plaire, parce qu'on doit vendre le produit, on doit faire pour que ça corresponde, mais disons que très vite, en fait je suis pas quelqu'un qui a peur du candidaton, dans le sens où très rapidement, ma vie, etc., est-ce que j'aime bien faire, etc., je l'assume. Voilà, je vais pas, je ne suis pas des dictats spécifiques, etc. J'assume moi-même, voilà, mes idées, mon corps, mes convictions, ma famille. Enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit effectivement se rendre compte qu'on est les seuls, finalement, voilà, seuls avec soi-même. Donc voilà, j'assume pas mal. Il y a toujours effectivement la peur de, parfois, effectivement, je pourrais dire, de pas atteindre ses objectifs. Donc, oui, en fin d'année, on fait des objectifs. On a peur de pas avoir le chiffre d'affaires qu'on s'était fixé, on a peur d'avoir des coûts trop élevés, on a peur de pas répondre à la demande du client, etc. Donc oui, ce sont des peurs légitimes, mais j'ai pas eu des peurs qui m'ont paralysée, ou en tout cas, j'ai pas eu des peurs légitimes qui m'ont paralysée. Donc oui, donc parfois effectivement, la peur d'avoir un client satisfait, etc. Mais ça, je pense que c'est pas légitime, parce que parfois il faut se détacher de ça aussi, quoi.
Est-ce que la période un peu folle 2020-2021, les confinements, tout ça, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce que ça t'a dû changer beaucoup de choses dans ta façon de travailler à ce moment-là?
Mais donc effectivement, pour le e-commerce, ça, il n'y a rien à faire, ça a eu quand même un coup de boost. Donc,
ah oui, les gens étaient chez eux, ils commandaient.
Voilà, donc effectivement, les sites de vente en ligne ont quand même eu un coup de boost à ce moment-là. Comme moi, j'étais très fort sur tous ces cadeaux famille, grands-parents, parrain, marraine, ça a aussi joué, parce que les gens étant chez eux, ils voulaient gâter leurs filleuls, la fête des mères, etc. Donc, il y a vraiment eu ce côté aussi... Qui a donné aussi un second coup de boost, je dirais. En termes de travail, c'était la même chose. J'ai mon atelier. Mais c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai bougé de la maison à l'atelier. Donc, le fait de sortir de chez moi, etc., c'était aussi important. Donc oui, de manière générale, oui, c'est ça. C'est triste à dire, mais le Covid, pour le e-commerce, ça donnait quand même un coup de boost. Maintenant, il n'y a rien à faire. À long terme, ça reste quand même. On reste quand même dans des produits qui ne sont pas essentiels. Et donc, on sent bien avec les crises successives de Covid, de l'énergétique, les inondations, la guerre, etc. Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens ont moins de moyens, que le panier moyen sur le site diminue, qu'on fait plus attention à ses dépenses. Et ça, rien à faire, ça se reflète partout.
C'est plutôt l'après qui est...
L'après qui où on le ressent, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que le Covid, ça a aussi mis en avant le fait que le e-commerce a encore des belles années devant lui. Et que donc c'est important maintenant de s'engager justement dans le e-commerce et dans la communication, le retour et de raisonner le consommateur par rapport à la bonne manière de faire du e-commerce et de commander en ligne. Donc c'est là qu'on s'engage aussi, que ce soit dans la communication, dans les prix alternatifs, c'est de conscientiser le fait que commander en ligne, c'est important de commander en ligne auprès de commerçants qu'on connaît, qui sont à proximité, qui ont leurs équipes basées en Belgique, etc. Et que donc le e-commerce de proximité, en fait, n'est pas le même que le e-commerce sur les plateformes internationales. Donc ça, c'est encore un engagement supplémentaire qui nous tient à cœur.
Ok. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens commandent spécifiquement chez toi, alors?
Je pense effectivement, ici en l'occurrence, de plus en plus maintenant, on a vraiment créé un univers, on a créé effectivement une image de marque qui se fait connaître petit à petit, qui a de plus en plus d'ampleur quand même, et donc les gens commandent, je pense vraiment pour ce côté, beaucoup le disent, hein, quand on voit les témoignages, c'est énormément pour la qualité des services clients, donc on est à l'écoute, on répond rapidement, on fait le suivi avec le client, on agit quand il y a un souci, ou quand il y a une erreur, ou quand il y a quelque chose à faire, alors on est toujours effectivement à vouloir satisfaire le client, donc ça je pense que c'est essentiel. Donc c'est vraiment ce côté de proximité qui est important, donc ça je pense que c'est un point fort. Et puis ils ont entendu parler, ils se rendent compte de ce qu'il y a derrière, quand ils viennent chercher ici les commandes à l'atelier, mais ils voient effectivement où on est installé, etc. Donc je pense que ça sensibilise quand même pas mal le consommateur de savoir que commander effectivement auprès d'une petite boutique, ben, c'est soutenir directement des emplois en Belgique, des loyers en Belgique, des familles en Belgique, des cotisations sociales, TVA, etc. Et donc, oui, je pense que de plus en plus, les gens se sont sensibilisés. Et donc, ça fait partie des raisons, effectivement, pour lesquelles ils viennent sur notre site de e-commerce. Oui.
Super, super, c'est important. Je regarde ma petite liste de questions. Ah oui, bah oui, le futur, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu as envie, où tu as envie d'emmener ce projet quoi?
À court terme, effectivement, c'est de continuer et d'évoluer dans cette nouvelle structure qu'on a mise en place. Dans le fait de plus déléguer, d'avoir plus d'aide, que ce soit en interne ou en externe. D'avoir la possibilité, effectivement, de faire grandir l'équipe. De proposer plus de nouveautés aussi. On se rend compte que les gens, voilà, ils aiment bien le concept, le produit, ils n'ont pas envie de venir sur le site et de commander, mais les nouveautés ne suivent pas assez vite. Et donc, parfois, on se rend compte qu'il faut proposer plus de nouveautés pour pouvoir leur fidéliser et pour avoir plus de retours. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on doit travailler cette année. Et puis dans un second temps, effectivement, faire évoluer. Là, maintenant, on est très fort sur le marché francophone, s'orienter vers le marché néerlandophone, et donc tout en restant en Belgique. Donc, c'est aussi un point important du développement. Et puis, effectivement, mettre en avant l'importance du e-commerce à plus large échelle.
Ok. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as en tête le conseil le plus utile que tu aies reçu dans tout ça?
Alors, je pense que le conseil le plus utile qu'on m'ait donné, c'est le fait de s'entourer et de parler de son projet. Donc d'abord parler de son projet. Parfois les gens n'osent pas parler. Ah, on va me voler l'idée, on va me voler ceci, on va me voler cela et la concurrence, etc. Moi, je pense que c'est en parlant qu'on le fait évoluer. D'abord, on en parle aux clients potentiels, donc on a leur retour, donc on adapte. Ensuite, on en parle à son réseau. Eux aussi ont des retours, parce que très souvent, quand on en parle à d'autres entrepreneurs, on a la même problématique, pas sur le même sujet, mais on a la même problématique, et donc on peut réfléchir ensemble à des solutions. Ah, mais tiens, moi, j'ai pensé à ceci, tiens, moi, finalement, je travaille avec cela. Et donc, en parlant, là, on peut déjà aussi résoudre mal de problèmes. Et puis, de nouveau aussi, c'est de se faire... En parlant, on rencontre alors d'autres profils. Et alors, du coup, on peut aussi composer son équipe comme ça. Et donc, rencontrer des profils qui sont complémentaires, qui ont des autres valeurs ajoutées, etc. Donc, plus on en parle... Et plus il va évoluer. Et alors aussi, le dernier conseil que j'avais donné, c'est vrai que ça c'est aussi interpellant, mais maintenant il ne me venait pas directement à l'idée, c'était c'est jamais le bon moment, c'est maintenant qu'il faut commencer. Souvent on dit, mais maintenant j'ai des jeunes enfants, maintenant j'ai un emprunt, maintenant mon mari ceci, maintenant. Et en fait, non, il y aura toujours des excuses. Et à un moment donné, il faut y aller. Et en fait, c'est jamais parfait. Voilà, mieux vaut fait que parfait, c'était vraiment la baseline au début. Ah, mais je vais attendre de lancer mon site quand j'ai des photos. Ah, mais je vais attendre de faire des photos quand j'ai tous mes produits. Ah, je vais attendre de faire mes produits quand j'ai toutes mes idées. Non, mais à ce moment-là, on n'avance jamais. On a un produit, on fait une photo, on est sur le site, on recommence, on a un retour client, on adapte le produit, on refait une photo, on remet sur le pas. Donc, c'est vraiment des itérations qui font qu'on avance plutôt que d'attendre que tout soit parfait, parce que de toute manière, ça ne sera jamais le cas.
Super, super. Je me disais juste, d'un point de vue pratique, ton site, tu gères toute seule ou tu as aussi du support?
Ça, j'ai du support, donc ouais. Je travaille avec Laurence Verset.
Oui, on la cite.
Voilà, de la suite dans les idées, donc elle qui a fait mon site dès le début. On a notre deuxième site là ensemble. Donc, elle gère aussi entre-temps ma base de données à MailChimp aussi, Newsletter. Et donc, c'est un bon élément de l'équipe. Elle est en externe, du coup, mais elle fait partie intégrante de l'équipe aussi. Et donc, voilà. Donc, au day-to-day, c'est moi qui le gère. Mais effectivement, quand il y a des mises à jour, quand il y a des gros changements à faire, des nouveaux plugins à installer, alors c'est elle qui s'en occupe.
Mais je trouve ça intéressant, effectivement, cette notion d'avoir une vision hélicoptère, savoir tout ce qui se passe dans ton activité. Et en même temps, comme tu le disais, savoir que tu peux pas être spécialiste en informatique, en com, en droit, en truc, en machin, et qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas aller chercher du support, quoi.
Exactement, voilà.
Ok, super. Mais écoute, merci, en fait. C'était super riche, super intéressant, et Évidemment, comme chaque fois, je mets tous les liens pour pouvoir te retrouver, même si c'est assez évident que Customify, qui ne connaît pas, en fait. Merci beaucoup, Théodora.
Merci, Jessica.
Je sais pas vous, mais moi, cette histoire m'a vraiment donné envie de partir à l'aventure en famille avec de très beaux sacs et accessoires de voyage. Voilà, c'était le dernier placement de produit pour Customify. Je remercie encore Théodora. Je retiendrai dans les petites leçons utiles le fait de déléguer, d'apprendre à se concentrer sur ce sur quoi on est bon ou ce qu'on aime vraiment faire, parce que quand on crée son activité, c'est quand même notamment pour faire ce qu'on aime. L'importance aussi de veiller à son temps de déconnexion, laisser les outils de travail au travail, même quand on travaille tout seul, et réussir à ce que la maison soit un lieu préservé. Et dernière chose qui m'a vraiment marquée, parce que c'est une phrase que j'utilise énormément dans mes accompagnements, c'est l'idée que c'est jamais le bon moment et qu'en fait c'est maintenant qu'il faut commencer. Moi je dis au moins une fois par coaching, mieux vaut fait que parfait. Je suis contente de voir que Théodora partage cet état d'esprit et que c'est notamment un des meilleurs apprentissages qu'elle a retiré de son parcours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, donné envie vous aussi d'explorer vos futurs espaces de récréation. À bientôt !